Répondre à l'urgence, passer dans une phase active des travaux. La mission interministérielle était réunie en plénière hier. Son nouveau directeur, Amaury Declute, qui remplace Claire Durieux, était ce matin notre invité. Accompagner les maires dans leur mission. Le haut-commissaire rencontre aujourd'hui les 33 maires du territoire ou leurs représentants. Manifestation de Lussoinck devant la CAFAT. Le syndicat dénonce un manque de transparence et d'équité dans le processus de recrutement du nouveau directeur général. Demain, c'est le 1er mai, fête des travailleurs. C'est aussi l'occasion d'offrir un brin de buguet bonheur. Les fleuristes se sont organisés. 25 milliards de dollars, c'est le coût de la guerre au Moyen-Orient pour les Américains. Une guerre qui dure depuis plus de 2 mois maintenant. Dans ce contexte, Total Energy annonce un bénéfice de 5 milliards d'euros au premier trimestre. Le Premier ministre appelle le géant pétrolier à redistribuer ses profits d'une façon ou d'une autre. Et puis en football, pas de vainqueur dans la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Arsenal et l'Atlético Madrid se sont quittés sur un match nul, un partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans une période économiquement compliquée, nombreux sont ceux qui cherchent du travail ou qui réfléchissent à une nouvelle orientation professionnelle. L'un des moyens pour y parvenir est de faire un bilan de compétences ou une VAE, une validation des acquis de l'expérience. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui existe en Calédonie et à qui s'adresse ce genre de parcours? Ce sera le thème des Jeudis de l'économie dans Radio Rythme Bleu pour lequel nous nous retrouverons à la fin de ce journal. Nous serons en compagnie d'Angela Leclerc qui est conseillère en formation continue et alternance à l'UNC, Aurélia Marchand du vice-rectorat et Séverine Zimmer, directrice du FIAF. Amaury Declute, le nouveau directeur de la mission interministérielle, est arrivé il y a 3 semaines en Nouvelle-Calédonie. Il était notre invité du matin à 7h30, Elisabeth Noir.
Amaury Declute succède à Claire Durieux et s'inscrit dans la continuité de ce qui a été initié avec le pacte de refondation de l'État dont il va superviser la mise en œuvre. Le pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie, c'est, rappelons-le, un soutien de l'État de 240 milliards de francs pacifiques sur 5 ans. Dès 2026, 25 milliards vont être consacrés à la relance de l'économie, a rappelé Amaury Declute.
L'objectif de ce plan de relance, il est clair, c'est de s'assurer que les entreprises, et notamment les entreprises de BTP qui aujourd'hui sont en souffrance parce qu'elles manquent de commandes, puissent bénéficier d'une relance très forte de la commande publique par le biais de projets soutenus jusqu'à 100% par l'État, projets qui sont portés par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. Aujourd'hui, il y a des effets concrets de ce plan de relance avec 7 milliards de francs pacifiques de dossiers reçus et 2,1 milliards de francs pacifiques d'engagement en cours de décaissement. Donc c'est quelque chose qui va très vite. Hier, en réunion plénière avec l'ensemble des acteurs, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait aller encore plus vite parce que les entreprises ont besoin de cette commande publique.
Cette commande publique représente déjà 7 milliards de francs au travers de 61 dossiers retenus. Ils ont été sélectionnés sur des critères très précis.
Le premier critère, c'est qu'ils puissent démarrer rapidement en 2026 parce qu'un projet intéressant mais au long cours, en fait, ne répond pas à l'urgence. Le deuxième critère, c'est de répondre à des priorités de politique publique pour être utile pour les Calédoniens. On ne veut pas créer des éléphants blancs, on veut des projets concrets. Le premier axe prioritaire, c'est le désenclavement, donc ça peut être des routes, ça peut être des ponts. Le deuxième axe, c'est les services essentiels, ça peut être la rénovation d'écoles ou de collèges, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'assainissement. Troisième axe, c'est la lutte contre les effets du réchauffement climatique, par exemple la lutte contre l'érosion côtière. Quatrième axe, la diversification de l'économie, par exemple dans le tourisme ou l'agriculture.
Et certains de ces projets vont commencer très vite puisque 2,1 milliards sont déjà en cours d'engagement, mais une deuxième phase d'appel à projets a été lancée. Les collectivités ont jusqu'au 15 mai pour y répondre.
Les services de l'État sont très attentifs au fait d'accompagner les collectivités. On a pas mal de communes, notamment, qui ont changé d'exécutif tout récemment, qui commencent à monter en puissance. Et évidemment, ces communes, elles ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir monter les dossiers rapidement dans la temporalité du plan de relance. On s'attend à avoir beaucoup de dossiers parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a des projets intéressants. Donc, il y aura une sélection parce que l'enveloppe n'est pas extensible. Et on cherchera à trouver les projets qui sont les plus pertinents, en lien, évidemment, avec les collectivités et leurs priorités.
Et parmi les priorités, un accent est mis sur la jeunesse. Les premières conventions avec les collectivités seront signées dès le mois de mai.
Il y a plus de 11 millions d'euros, donc 1,3 milliard de francs pacifiques, qui sont alloués chaque année sur 5 ans en faveur de la jeunesse, avec plus de 1000 parcours d'insertion en faveur des jeunes décrocheurs, décrochage scolaire, décrochage professionnel. L'objectif, c'est de donner des perspectives à ces jeunes et éviter qu'ils ne tombent dans l'addiction ou dans la délinquance. Les collectivités seront en première ligne sur ça, parce que la compétence en matière de jeunesse est calédonienne. Donc l'État et financeurs travaillent avec les collectivités. Les premières conventions devraient être signées en mai pour qu'elles puissent lancer des recrutements pour des éducateurs spécialisés et pour qu'elles puissent commencer à proposer des parcours pour les jeunes.
Et puis, autre secteur essentiel, bien sûr, celui du nickel, un sujet stratégique par excellence, avec 3 axes essentiels.
Le premier, c'est la stratégie nickel, qui a été souhaitée par le Premier ministre dans son pacte de refondation. Là-dessus, on y travaille avec les industriels, avec les provinces, avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Les travaux sont en cours, c'est un sujet complexe. Notamment, un des points d'attention forts sur lequel on travaille, c'est le sujet de l'énergie, pour pouvoir permettre d'avoir un coût de l'énergie compétitif pour les usines nickel à terme, et décarboner si possible. Deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la reprise de l'usine du Sud. Là-dessus, la mission interministérielle n'est pas en première ligne pour l'État, c'est le CIRI à Bercy qui s'en charge, en lien avec la province Sud, en lien avec le repreneur potentiel et PRNC. Là-dessus, le secret des affaires ne me permet pas de rentrer dans le détail, mais c'est un dossier qui avance et qui est suivi avec beaucoup d'attention. Et troisième dossier, c'est l'Europe. On a le souhait conjoint, gouvernement de Nouvelle-Calédonie éteint, de mobiliser l'Europe sur le sujet du nickel calédonien, parce que le nickel est potentiellement une ressource stratégique pour l'industrie européenne dans les années à venir. Là-dessus, il y a eu un sommet entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer à Aruba, il y a une dizaine de jours. Les discussions vont se poursuivre sur le sujet du nickel à l'occasion d'un sommet qui aura lieu à Bruxelles courant mai.
Amaury de Cluyde souligne par ailleurs que l'État apporte un soutien fort aux finances publiques calédoniennes avec 44 milliards de prêts garantis par l'État, plus 7 milliards de subventions directement allouées au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour les retraites et le ROAM. Le nouveau directeur de la mission interministérielle quitte la Nouvelle-Calédonie ce soir. Son retour dépend de la date des élections provinciales, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore quand il reviendra.
Une interview d'Amaury de Cluyde à retrouver, à réécouter et à visionner en podcast sur notre site internet. Les 33 maires de Calédonie réunis aujourd'hui en séminaire au Haut-Commissariat, ils vont découvrir toute la journée, Charlotte Coulson, les services et les opérations de l'État.
L'État est à vos côtés, c'est le message passé aujourd'hui à la résidence du Haut-Commissaire. Car les maires sont les élus de la proximité, le premier visage de l'action publique, les mots du Haut-Commissaire Jacques Billon lors de son discours d'ouverture. À ce titre, ils partagent des compétences avec l'État qui met aussi à leur disposition des outils de gestion. La première thématique abordée aujourd'hui est par exemple la sécurité. Écoutez Jacques Billon.
Nous aborderons en premier lieu la sécurité. Je sais quelle est votre préoccupation majeure. La deuxième séquence sera consacrée à votre quotidien administratif. La troisième séquence traitera de l'organisation des scrutins, moment clé de la vie civique, et aussi des obligations juridiques qui incombent à vos équipes. Nous reprendrons nos travaux avec la séquence 4 dédiée aux finances communales. Bien que l'heure soit traditionnellement propice à une baisse de vigilance, je sollicite votre attention toute particulière sur ce sujet dont l'importance budgétaire est cruciale pour vos projets. Enfin, nous conclurons ce séminaire en mettant à l'honneur vos projets de développement. La Nouvelle-Calédonie a besoin de vous pour poursuivre son relèvement. Quelles que soient les circonstances, je vous exhorte à privilégier systématiquement la voie du dialogue et à œuvrer pour l'apaisement au sein de vos territoires.
Un séminaire attendu de tous, mais surtout des nouveaux maires qui découvrent encore pour certains les leviers dont ils peuvent disposer pour mener à bien leur mandat. Yann Gastaldi, maire de Koumac, nouvellement élu.
C'est déjà une première expérience et ça permet de retrouver l'ensemble des maires. Pour moi, c'est la première fois qu'on se rencontre tous et également de rencontrer toute l'équipe du Haut-Commissariat pour échanger avec eux sur les différents sujets. Ça sera pour nous le moment d'échanger, de voir un peu lesquels de sujets peuvent correspondre entre chaque commune et pour la suite pouvoir travailler ensemble. Ça sera beaucoup axé sur le rôle et les responsabilités du maire, mais également le lien qu'il peut avoir avec le Haut-Commissariat, surtout au niveau des fonds que l'État peut nous fournir dans le cadre de projets de développement, etc.
Et vous l'entendez, le mot qui revient, c'est celui de finances, un sujet de préoccupation majeure pour les maires. Pascal Vittori est le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.
Les communes bénéficient au travers de la dotation globale de fonctionnement, de financement de la part de l'État. Et les communes sont contrôlées au niveau budgétaire et au niveau de la légalité par l'État. Et puis dans cette période de crise financière, l'État a mis en place des dispositifs spéciaux, aussi bien en fonctionnement avec la dotation globale de solidarité qui va à la jeunesse et pour des actions sociales, que en investissement avec le plan de relance lancé par le Premier ministre et qui prend en charge à 100% certaines opérations d'investissement des communes. C'est donc une journée très importante pour nous pour faire le point sur tous ces sujets en tout début de mandat pour pouvoir lancer au mieux nos actions.
Le séminaire est prévu pour durer jusqu'à 15h30.
Une séance technique et écourtée au Congrès ce matin. Les élus étaient réunis en séance publique pour adopter deux lois du pays. Mais une motion préjudicielle a été adoptée pour envoyer le premier texte à une séance ultérieure, Nicolas Legrand.
Oui, les élus n'ont pas étudié le projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de concurrence. En cause, un hémicycle clairsemé. Il n'y avait au début de séance que 28 élus présents ou représentés par des procurations. Or, une loi du pays doit obtenir au moins 28 voix pour être adoptée et non une majorité simple comme une délibération. C'est pourquoi le texte a été renvoyé. Entre-temps, quelques élus sont arrivés et la deuxième loi du pays a été adoptée. Elle porte sur des dispositions relatives à la publicité foncière et préparatoire à la mise en œuvre de la formalité fusionnée et modifiant le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Écoutez Laura Vendégout, rapporteur spécial.
C'était plutôt pour pouvoir rationaliser les échanges entre les services de la publicité foncière de la Nouvelle-Calédonie et la Chambre des notaires qui font les dépôts des actes notariés pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc c'est en quelque sorte un pas vers la modernisation de l'administration de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas eu de changement depuis le transfert des compétences de 2013 et là on est encore sur un système de transfert de papier. Avant la mise en place de cette loi, on a les notaires qui devaient fournir une très grosse liasse de papier pour pouvoir faire l'enregistrement des titres. Et là, avec cette loi du pays, ça permet d'avoir une diminution de papier et de pouvoir passer peut-être et formaliser sur une dématérialisation.
Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, s'appliquent des textes du 19e siècle qui ont été modifiés à plusieurs reprises. C'est donc un nouveau toilettage important, même si le Congrès précise qu'une réforme d'ampleur s'imposera à long terme.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Lors de votre rendez-vous SMS, avec d'abord la réponse à notre question d'hier, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS craignent une multiplication des listes pour les prochaines élections provinciales. Ils sont 39% à ne pas le craindre. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à la préservation des savoirs traditionnels, comme le prévoit un projet de loi de pays adopté par le gouvernement? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous n'y êtes pas favorable, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. 11h42, la première pause de ce journal et dans un instant on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et notamment cette manifestation de Lussoing ce matin devant la CAFAT.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Des fables pas du tout comme à l'école. Les samedis 2 et dimanche 3 mai, le théâtre Les Pieds Nus présente Les Fables de Jean de La Fontaine. Le loup et l'agneau, le lion et le moucheron, et si les animaux parlaient de nous. Deux comédiens, 1000 personnages, un théâtre vivant. Rendez-vous en famille les 2 et 3 mai à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est Lussoing mobilisé depuis ce matin devant la CAFAT au centre-ville de Nouméa. Près de 100 personnes réunies pour dénoncer un manque de transparence et d'équité dans le processus de recrutement du nouveau directeur général de la CAFAT, Léana Colombo.
Oui, poste actuellement occupé par Xavier Martin. Lussoing alerte sur le manque de transparence et d'équité entre les candidatures qui met à mal le paritarisme selon le syndicat. Plusieurs courriers ont été envoyés au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la semaine dernière, mais tous étaient restés sans réponse. Ce matin, 8h, le président Alcide Ponga et le membre du gouvernement en charge du secteur, Christopher Gigès, ont reçu une délégation de Lussoing. Francisco Sionet, premier secrétaire général adjoint de Lussoing.
On a donné notre position de Lussoing comme quoi sur le processus de recrutement du directeur général, on mettait des doutes là-dessus sur la philosophie en fait en même temps de ce recrutement. Donc on a échangé avec le membre du gouvernement, Christopher Gigès, qui est en charge de ça. Et qu'on se rend compte que finalement, c'est pas un problème de compétence, on a un problème de relationnel entre la direction générale et les membres du gouvernement. Et que c'est pas normal, on doit juger sur la compétence. Et dans le contexte actuel, il faut conserver la compétence. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt, surtout à un mois des élections de l'ensemble du pays, qu'il n'y a aucun intérêt de le faire.
Christopher Gigès, de son côté, rappelle que pour procéder à la nomination du nouveau directeur général de la CAFAT, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a fait que respecter les statuts de la Caisse.
On a beaucoup de mal à recruter des bons directeurs sur ce type de structure et que quand des bons directeurs veulent postuler, ils mettent du temps à lâcher leur ancien poste. Donc c'est bien de s'y préparer un peu en amont pour avoir la meilleure direction possible. Et surtout, on ne fait que respecter les statuts de la Caisse. Mais je leur ai dit ce matin que la priorité première du gouvernement, c'est que les relations s'apaisent entre la CAFAT, le gouvernement et le Congrès. Et aujourd'hui, il y a un manque de transparence de la direction générale actuelle de la CAFAT qui peut-être entraîne des tensions qui sont
La mobilisation s'achèvera à midi, tandis qu'un conseil d'administration exceptionnel de la CAFAT doit se réunir à 13h pour donner un avis sur la situation. Si aucune avancée n'est constatée, l'USOINC envisage d'autres actions pour aller au bout de cette affaire.
Une famille agressée à son domicile à Caméré, route des Trois Dames. Les coupables présumés avaient rendez-vous avec la justice hier, le 11 février dernier. Un groupe de jeunes avait commencé par dégrader la boîte aux lettres et le portail avant de s'en prendre directement aux membres du foyer. Le père de famille a reçu un coup à la tête, entraînant 21 jours d'incapacité totale de travail. Les autres victimes également violentées présentaient des ITT de 5 à 7 jours. Très vite interpellés, trois jeunes majeurs ont reconnu les faits. Ils ont été jugés hier. Maître Barbara Brunard est l'avocate des parties civiles.
Le délibéré a été rendu. Il y avait trois jeunes majeurs qui avaient été identifiés. Un qui était en détention provisoire et ce dernier a eu une peine de 3 ans ferme, qui est une peine supérieure à ce qui avait été requis par le ministère public. Et les deux autres qui étaient peu connus, voire pas connus du tout pour l'un d'eux, eux ont une peine plus légère de 16 mois d'emprisonnement, dont 6 mois de sursis probatoire. Alors vous savez, pour ces familles, c'est très compliqué. Il y avait beaucoup de tristesse de voir à quel point la jeunesse des quartiers n'a plus aucun respect pour les habitants même du quartier. Donc bon, ils n'étaient pas là pour clamer justice, ils étaient là pour que les choses soient dites et qu'une peine soit prononcée, ce qui a été le cas.
Une quatrième personne qui avait été impliquée dans cette affaire, mais elle a été mise hors de cause. Les avocats de la défense ont 10 jours pour faire appel du jugement. Demain 1er mai, c'est la fête du travail, un jour férié pour de nombreux Calédoniens, mais le 1er mai, c'est aussi une tradition, Léana Colombo, offrir du muguet, fleur porte-bonheur à ses proches.
En Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de production locale, les fleurs sont donc importées de métropole et les fleuristes s'y prennent très tôt pour être sûrs de recevoir leur cargaison. Viennent ensuite les préparatifs pour que tout soit prêt le jour J, comme chez Happy Flower à Ducos, Laura-Marie Rivière, gérante de la boutique.
On est prêt, on a reçu nos beaux brins de muguet. Donc là, on commence tout ce qui est préparatif, le brin à l'unité, le brin avec la rose, le brin avec l'orchidée et les compositions. Le muguet, le 1er mai, c'est quand même une tradition, donc il y a pas mal de demandes et puis les gens sont habitués tous les ans à voir le muguet. Donc on a quand même pas mal de demandes et puis on est sur à peu près 2000 brins. Il nous reste jamais vraiment beaucoup de brins de muguet. Cette année, malgré le coût du fret qui augmente chaque année, on aimerait que ça puisse diminuer, mais bon, chaque année, on a toujours de drôles de surprises. On décide de garder le même prix en fait que tous les ans, donc nous, notre brin de muguet va être à 1250.
Le brin sera un tout petit peu moins cher chez le fleuriste Angarec situé à l'Orphelinat où il sera proposé à 1200 francs. Des compositions seront également possibles, rappelle Mireille Lévy, gérante du magasin.
Avec le muguet, il n'y a pas de tendance, c'est vraiment le muguet qui est important. Après, les gens peuvent l'agrémenter avec autre chose. Des petites compositions, c'est facile aussi à transporter. Nous avons des brins de muguet que nous enveloppons avec du papier original, avec un brin, deux brins, avec une rose qui se fait habituellement chez tout le monde. Et puis nous avons aussi des petites compositions à partir de 3000 francs en magasin qui seront prêtes. Il y aura du choix. Puis on peut rajouter des brins de muguet dans des grandes composition. Si les personnes veulent offrir quelque chose d'imposant, mais sans se ruiner en muguet, on pourra rajouter des brins de muguet dans des compositions de fleurs exotiques, par exemple.
Il est d'ores et déjà possible d'acheter du muguet chez les fleuristes si vous le souhaitez. Sinon, pour le 1er mai, les magasins ouvriront leurs portes toute la matinée. Concernant Happy Flower, en plus de sa boutique à Ducos, des stands éphémères seront présents pour vendre du muguet près du cimetière du 5e kilomètre, dans les quartiers sud, mais aussi, nouveauté cette année, à Magenta.
Le 1er mai, c'est donc la fête du travail et la tradition du muguet, on vient le voir. C'est aussi pour les catholiques l'entrée dans le mois de Marie sur le territoire. Et c'est une autre tradition. Ce mois de Marie s'ouvre par les 24 heures de prière organisées par l'association Notre-Dame du Pacifique. Il s'agit de se rassembler au pied de la Vierge du Pacifique et de se relayer pour prier sans interruption pendant 24 heures. Un moment de recueillement, bien sûr, mais aussi de rencontre et de partage, souligne la présidente de l'association, Josène Weiss.
Les gens, ils aiment bien les 24 heures de prière. Il y en a qui profitent justement de venir ici, des fois pour la première fois, et puis prier Maman Marie, voilà, se confier. Et ces 24 heures de prière, ben, ça sert, c'est le mois de Marie déjà, le mois de mai, prier le rosaire, Maman Marie. Et puis, bien sûr, fête des Saint-Joseph, fête des travailleurs, ça. Alors, il y a des groupes qui se succèdent, il y a toutes les heures. Toutes les heures, il y a un groupe qui vient. Eh ben, ils organisent leur prière pendant une heure. Soit ils font le chapelet, ou ils chantent, ou bon, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. En fin de compte, c'est comme si c'était une grande famille, ils se retrouvent tous, sans content, hein? Voilà. C'est comme une grande famille. Et puis, il y en a, ils sont restés des années sans se voir. Eh, mais toi, il y a entendu pas vu. Je trouve ça formidable, cette fraternité-là.
24 groupes vont donc participer à cet événement qui débute cet après-midi à 16h et qui sera clôturé demain 1er mai à 18h par une messe célébrée par le père Georges Sao. 11h51, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ta-ta-ta ! La chasse aux gloutons d'énergie est ouverte. Les gloutons d'énergie, c'est tous ces objets qui gloutonnent notre électricité et font exploser nos factures. Le climatiseur, quel glouton celui-là ? Pour le calmer, on sort l'artillerie. On le règle à 25 degrés minimum, on l'éteint quand la pièce est vide, on l'entretient une fois l'an et hop, jusqu'à 10% en moins sur la facture. Plus d'infos sur ecogest.nc, eec.nc ou enercal.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger d'abord, 2 mois de guerre et toujours pas de perspective réelle d'accord au Moyen-Orient. Le conflit semble s'enliser et Donald Trump se dit prêt à prolonger pendant plusieurs mois son contre-blocus du détroit d'Ormuz pour asphyxier l'économie iranienne. La guerre dure donc et elle a un coût important pour les USA. Caroline Baudry pour Europe 1.
25 milliards de dollars selon les estimations du ministre américain de la Défense Pete Hegseth, un budget avalé notamment par le coût des munitions selon lui. Le chef du Pentagone était auditionné aujourd'hui par les parlementaires américains. Officiellement, le rendez-vous portait sur la demande de l'exécutif d'augmenter de 42% le budget de la Défense pour qu'il atteigne 1500 milliards de dollars en 2027, l'équivalent du PIB des Pays-Bas. Dans les faits, le ministre a été confronté aux critiques mordantes des élus démocrates qui ont déjà lancé 6 procédures pour le démettre de ses fonctions en vain. Pete Hegseth est accusé de mentir aux Américains sur les raisons, sur l'évolution de la guerre. Un bourbier, une catastrophe géopolitique et économique mondiale, ce sont leurs mots. Dans les rangs républicains, on regrette le manque de consultation des élus, le manque de transparence. Quel est le prix à payer pour que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, interroge le chef du Pentagone en guise de réponse.
L'économie mondiale souffre donc de cette guerre en raison notamment de la hausse du prix du pétrole. Le baril de Brent affiche 119 dollars, son prix le plus haut depuis 2022. En métropole, les prix à la pompe restent élevés et c'est dans ce contexte que Total Energy publie ses résultats du premier trimestre 2026. Le pétrolier annonce 5 milliards de bénéfices au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 51% sur un an. La gauche crie aux profiteurs de guerre et le débat sur la taxation des super-profits refait surface. Total s'est toutefois engagé à continuer de plafonner ses prix à la pompe, comme elle le fait depuis le début du conflit. Face à cette polémique, le Premier ministre refuse le Total bashing. Sébastien Lecornu, toujours réservé sur une hausse éventuelle de la fiscalité, appelle le géant pétrolier à redistribuer ses profits d'une façon ou d'une autre.
S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnel. Ça, c'est un débat politique qui est, me semble-t-il, assez noble.
Et cette tension sur les prix de l'essence provoque aussi une nouvelle délinquance, le siphonnage des réservoirs. Il se multiplie notamment sur les aires d'autoroute où les camions s'arrêtent pour la nuit, mais pas seulement. 200 litres de carburant ont été siphonnés dans une caserne de pompiers de Brest. Sandrine Prioul.
C'est en effet une triste découverte qu'ont fait les pompiers de Brest ce lundi matin,
les bouchons des réservoirs arrachés sur des véhicules d'intervention, possiblement isolés des regards pour la maintenance, et quelques 200 litres de carburant envolés, siphonnés à même les véhicules durant le week-end. Ces pompiers, qui souffraient déjà eux aussi de la hausse des prix du carburant, avec des factures qui feront des trous de 60, 70, 80 000 euros dans les budgets annuels des services d'intervention. Ici, le Larcin s'élève à quelques centaines d'euros, mais il laisse, on l'imagine, un goût amer dans les rangs de la caserne où vous ne trouverez personne pour s'exprimer sur l'affaire. L'enquête confiée au service local de police judiciaire devra d'ailleurs expliquer comment pareille intrusion et pareil vol ont été possibles dans une caserne de pompiers, a priori en activité 24 heures sur 24.
Permettre à certains commerces d'ouvrir le 1er mai avec leurs salariés. Le débat n'est pas clos et divise la classe politique et même l'exécutif. Le ministre du Travail a présenté un projet de loi en Conseil des ministres pour permettre à certaines professions de travailler le 1er mai, notamment les boulangers et les fleuristes. Il se heurte à l'opposition de Gérald Darmanin, son collègue garde des Sceaux, mais Jean-Pierre Farandou se défend.
Vous savez, moi j'ai fait l'école des mines. Moi je suis descendu dans les mines dans le Nord. Les conquêtes sociales, les conquêtes sur la sécurité au travail, dans des métiers dangereux, dans le Nord, je les connais, je les comprends. Et moi le premier, vous comprenez bien, je respecte cette journée-là. Je respecte ces luttes sociales. Je respecte ces acquis sociaux, bien évidemment.
Mais dans tous les cas, s'il est voté, ce projet de loi n'entrera en vigueur que l'an prochain. Pour cette année, le ministre du Travail a promis de la tolérance pour les boulangers et fleuristes qui ouvriront le 1er mai. Et puis toujours en métropole, l'UDR souhaite une nouvelle enquête parlementaire après celle sur l'audiovisuel public. Le parti d'Éric Ciotti veut s'intéresser au coût de l'immigration en France. Une demande légitime, estime Éric Ciotti.
On nous dit depuis des années qu'on a besoin d'immigration. 92% de ceux qui arrivent en France ne viennent pas pour travailler. Notre groupe va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres parce qu'on nous ment depuis des années.
Éric Ciotti, le président de l'UDR et le nouveau maire de Nice. 11h57, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive avec notamment la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions, match nul entre l'Atlético Madrid et Arsenal.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW mis en circulation entre 2000 et 2019, votre véhicule, selon son année et son modèle, est peut-être concerné. Réalisé exclusivement dans les ateliers de Prestige Motors, de rue Edmond Arbulot à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel ? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 44 30 00 ou par email à reception.prestige@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité. Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
L'actu sport, c'est d'abord du football avec la seconde demi-finale aller de Ligue des Champions. Ce matin, pas de vainqueur, Léo Fichou, entre l'Atlético Madrid et Arsenal.
Et non, après le festival de buts entre le PSG et le Bayern, hier 5-4, je le rappelle, pour les Parisiens, on espérait une rencontre avec autant de spectacles. Ce matin, c'est raté. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, un but partout. Tout s'est joué sur pénalty entre les Colchoneros et les Gunners. Le premier marqué par Gyökeres pour Arsenal à la 44e. Le deuxième par Alvarez pour l'Atlético à la 56e. Un troisième pénalty a été sifflé pour Arsenal en fin de rencontre, mais il a finalement été annulé après l'appel à la VAR. Pour son dernier match de Ligue des Champions à domicile, Antoine Griezmann a été élu homme du match. On l'écoute.
Très heureux. C'est vrai que beaucoup d'émotions quand on est rentré, les supporters ont lancé les papiers sur le terrain. C'était très beau, magnifique à voir depuis le terrain. Et voilà, j'ai bien gravé ça dans ma tête, dans le cœur. Et puis après, on a dû jouer au foot. On a réglé 2-3 trucs à la mi-temps pour notre pression, surtout côté gauche. Et ça nous a fait du bien parce qu'on est rentré avec une autre attitude, une autre pression. Donc voilà, garder cette deuxième mi-temps et faire la même là-bas.
Et avant Antoine Griezmann, ce matin, c'est Ousmane Dembélé qui avait été élu homme du match hier après la demi-finale entre le PSG et le Bayern. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine, mercredi matin 6h Arsenal-Atlético, jeudi matin 6h là aussi Bayern-Paris-Saint-Germain.
En tennis, Arthur Fils continue son parcours sans faute sur terre battue. Le Français s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid.
Après son titre à Barcelone, le 25e mondial et numéro 1 tricolore enchaîne en Espagne. Il est sur 9 victoires consécutives. Ce matin, il a écarté le 14e à l'ATP, le Tchéquier Leshka, victoire en 2-7, 6-3, 6-4. Et au prochain tour, Arthur Fils défiera le numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
Le sport côté calédonien avec du tennis de table et les championnats du monde par équipe. Jérémy Day, Jérôme Morisseau, Olivier Clouet et Emmanuel Bruchard se sont inclinés 3-0 face au Portugal, puis face à la Grèce. La dernière rencontre de poule, ce sera ce soir face à l'Algérie. En handball, les interligues hommes continuent en métropole. Et après une première défaite contre l'équipe de la région Grand Est, 37-23, la sélection calédonienne s'est de nouveau incliné 32-16 face à l'équipe de la région Normandie hier soir. Et puis enfin sur le territoire, les Hauts du Golfe avec la deuxième journée aujourd'hui de l'Evian New Caledonia Open.
Plus de 100 joueurs, joueuses également professionnels d'Australie, mais aussi de nombreux amateurs calédoniens sont réunis sur les greens de Dumbé à l'Evian New Caledonia Open. C'est une compétition reconnue par la PGA australienne. Olivier Ledin est le co-organisateur du tournoi.
Tout le monde est au rendez-vous, tout le monde est là, tout le monde est content de relancer cette machine avec des joueurs internationaux. Donc c'était le projet de départ, d'avoir des joueurs pros de nouveau sur un tournoi ici localement. Donc de ce côté-là, effectivement, mission accomplie. On a 26 joueurs internationaux, on a 30 joueurs pros comme on l'avait dit, puisque c'était notre cahier des charges quelque part. Donc voilà, donc maintenant 82 joueurs amateurs. Donc on est dans le champ qu'on s'était fixé, on avait fixé un champ limite à 120.
Et à l'issue du premier tour, c'est le professionnel australien Peter Vasiliadis qui est en tête à moins de 2 coups sous le par, soit 1 coup d'avance sur ses principaux poursuivants. Le meilleur calédonien pour le moment, Auguste Lardin, il est au pas, il a fait le par. Le deuxième tour se dispute aujourd'hui.